Vous écoutez On lit pour vous.
Entre engagement et militantisme. Une chronique d'Yves Lafontaine, parue le 22 avril 2026 dans le magazine Fugue. Dans les discussions autour des luttes LGBTQ+, les notions d'engagement communautaire et de militantisme sont souvent utilisées comme si elles étaient interchangeables. Pourtant, elles renvoient à des formes d'action différentes, même si elles se recoupent et se nourrissent l'une l'autre. Toutes deux participent à l'avancement des droits et au bien-être des communautés, mais elles n'interviennent pas toujours au même niveau ni de la même manière. L'engagement communautaire se situe d'abord sur le terrain. Il s'incarne dans l'implication concrète de personnes qui cherchent à répondre aux besoins immédiats d'une communauté. Cela peut prendre la forme de bénévolat, de travail dans des organismes, de soutien aux personnes vulnérables ou encore de la création d'espaces sécuritaires et inclusifs. Dans les milieux LGBTQ+, cet engagement se manifeste par exemple dans l'accompagnement des jeunes qui questionnent leur identité, l'organisation de groupes de soutien, les initiatives de prévention en santé sexuelle ou encore les activités sociales et culturelles qui permettent de briser l'isolement. L'objectif est avant tout d'améliorer la qualité de vie des personnes, ici et maintenant, en renforçant les liens de solidarité et en offrant des ressources concrètes. Le militantisme, pour sa part, s'inscrit davantage dans une démarche politique et revendicatrice. Il vise à transformer les structures sociales, les lois ou les institutions qui produisent des inégalités. Les militants, militantes, cherchent à faire évoluer les mentalités et à obtenir des changements durables, que ce soit par la mobilisation publique, la pression politique ou la prise de parole dans l'espace médiatique. Dans l'histoire des luttes LGBTQ+, le militantisme a joué un rôle déterminant, qu'il s'agisse des mobilisations contre la criminalisation de l'homosexualité, des combats pour la reconnaissance des couples de même sexe ou, plus récemment, des luttes pour les droits des personnes trans et non-binaires. La différence entre les deux tient donc principalement à leur objectif et à leur niveau d'action. L'engagement communautaire vise d'abord à soutenir les individus et à répondre à des besoins immédiats, tandis que le militantisme cherche à modifier les règles du jeu en s'attaquant aux causes structurelles de discrimination. Le premier agit souvent de façon plus discrète et continue. Le second s'exprime plus volontiers dans l'espace public, parfois dans la confrontation avec les institutions ou les pouvoirs en place. Dans la réalité, cependant, la frontière entre les deux est rarement étanche. De nombreux organismes communautaires jouent aussi un rôle militant lorsqu'ils défendent les droits de leurs membres ou interpellent les gouvernements sur certaines politiques. À l'inverse, plusieurs militants et militantes sont aussi impliqués dans des formes d'entraide et d'accompagnement au quotidien. Dans les communautés LGBTQ+, ces deux dimensions ont souvent avancé de pair. Les mobilisations politiques ont permis d'obtenir des droits, tandis que le travail communautaire a soutenu les personnes dans leur vie de tous les jours. Aujourd'hui, certains observateurs estiment même que le militantisme se manifeste de plus en plus à travers l'engagement communautaire. Face à des enjeux complexes, santé mentale, itinérance, accès aux soins, inclusion des personnes trans ou racisées, l'action militante ne passe plus seulement par la rue ou les grandes mobilisations, mais aussi par un travail patient et quotidien auprès des communautés. Autrement dit, prendre soin des personnes peut aussi devenir une manière de transformer la société. C'est précisément l'une des réflexions que souhaite ouvrir le numéro 500 de Fugue. Atteindre 500 éditions représente en soi un jalon exceptionnel, non seulement pour un média LGBTQ+, mais aussi dans le paysage médiatique québécois, où peu de publications, spécialisées ou non, peuvent revendiquer une telle longévité. Depuis ses débuts, Fugue a accompagné et régulièrement documenté les transformations du mouvement LGBTQ+. Dans ce numéro spécial, la question de l'engagement communautaire et du militantisme constitue donc l'un des fils conducteurs du dossier. Quelles tensions traversent aujourd'hui les communautés? Et surtout, comment imaginer les formes d'engagement qui permettront de répondre aux défis actuels et à ceux qui se profilent? Au fond, engagement communautaire et militantisme ne s'opposent pas. Ils constituent plutôt deux dimensions complémentaires d'une même volonté de justice et de solidarité. L'un agit au cœur des communautés, l'autre cherche à changer les structures qui les façonnent. Ensemble, ils ont contribué à faire avancer les droits LGBTQ+, et continuent de nourrir les luttes à venir. Des luttes que Fugue, depuis maintenant 500 numéros, s'emploie à raconter, à questionner et à faire vivre dans l'espace public. Souhaitons-lui encore quelques autres centaines d'éditions. C'était, entre engagement et militantisme, une chronique d'Yves Lafontaine, parue le 22 avril 2026 dans le magazine Fugue.
Assaut contre les comportements toxiques sur les chantiers. Un texte de Louise Leduc, paru le 27 avril 2026 dans La Presse. Je te dis que les apprentis que j'ai, c'est pas les pogos les plus dégelés. C'est sûr que ça va prendre du temps, c'est un importé qui fait la job. Elle devrait être à la maison à faire des lunchs. Ensemble, les leaders patronaux et syndicaux de la construction lancent une campagne pour que cesse ce genre de remarques et pour assainir le climat sur les chantiers. Au total, pas moins de 6 associations patronales et 5 syndicats, dont la FTQ Construction et la CSN, s'associent à cette initiative qui coûtera 1 million de dollars. Elle se déclinera dans différents médias sur 3 ans pour favoriser des changements de comportement durable sur les chantiers. En entrevue, Audrey Murray, présidente directrice générale de la Commission de la construction du Québec, CCQ, explique qu'une campagne de cette envergure, qui sera audacieuse, a été jugée nécessaire parce que, de toute évidence, la discrimination, l'intimidation et le harcèlement sont aussi répandus qu'inacceptables sur les chantiers. Chacun a droit à un climat de travail sain, rappelle-t-elle. Or, c'est loin d'être le cas, selon un sondage léger réalisé en 2023. 9% des répondants ont indiqué avoir été victimes de discrimination, d'intimidation ou de harcèlement dans l'industrie de la construction, ce qui représente plus de 20 200 victimes. 61% ont dit y avoir été confrontés, d'une manière ou d'une autre. Toujours selon ce sondage, 79% des victimes et témoins ne font pas de signalement, la peur de représailles ou de perdre son emploi étant la principale raison invoquée. En outre, le tiers des entreprises ne disposerait pas de politiques et de pratiques claires en gestion de cas de discrimination, d'intimidation ou de harcèlement. Un climat délétère qui fait fuir trop de gens. Selon une précédente étude demandée elle aussi par la CCQ en 2021, 7,4% des gens qui abandonnent le milieu de la construction disent l'avoir fait en raison du climat de travail. Choc de culture. À l'heure où la main-d'œuvre est précieuse et où on a devant nous un carnet de commandes historiques, l'industrie ne peut pas se permettre de perdre autant de monde, plaide Mme Murray. Souvent, les jeunes qui arrivent sur les chantiers ont un choc de culture et s'étonnent des comportements et des valeurs qu'ils constatent dans ce milieu fortement homogène composé à 96% d'hommes. Mme Murray fait observer au demeurant qu'en étant à ce point minoritaire, les femmes se sentent souvent isolées. Les autres groupes sous-représentés, autochtones, membres de communautés culturelles, sont aussi trop souvent visés. Comme il est question d'adultes et de façons d'agir bien implantées, ça n'est pas facile d'obtenir un changement de culture, mais Audrey Murray a bon espoir d'y arriver. Un grand nombre de leaders de la construction, des hommes, fait-elle remarquer, ont accepté de prendre part à la campagne. Si des cas de violence sur les chantiers ont aussi été rapportés dans les médias, Mme Murray souligne que dans ces situations, c'est la police qu'il ne faut pas hésiter à contacter. Par contre, pour toute situation de discrimination, d'intimidation ou de harcèlement, une ligne téléphonique est en place pour répondre à toute victime ou tout témoin au 1-833-333-8003 ou par écrit à dih@ccq.org. La campagne qui s'amorce vise donc tout autant à combattre les mauvais comportements qu'à sensibiliser les victimes à leurs droits et aux ressources disponibles. C'était « Assaut contre les comportements toxiques sur les chantiers », un texte de Louise Leduc paru le 27 avril 2026 dans La Presse.
Comment Ozempic influence votre assiette? Un texte de Stéphanie Bérubé, paru le 4 avril 2026 dans La Presse. Le nombre grandissant d'utilisateurs de sémaglutide et d'autres médicaments de type GLP-1 offre une occasion d'affaires à l'industrie alimentaire. Certains ne s'en privent pas, d'autres suivront. Est-ce une mauvaise chose? Ils magasinent davantage dans la section bio, mangent moins de viande, plus de fruits et de légumes. Les patients sous GLP-1, comme les célèbres Ozempic et Wegovy, ont aussi tendance à choisir des aliments enrichis en protéines et autres nutriments bénéfiques. Si créer des menus et des produits pour les utilisateurs de médicaments GLP-1 pouvait sembler fantasque, il n'y a pas si longtemps, le nombre grandissant de patients peut tenter certains acteurs importants de l'alimentation. C'est certain que la réponse de l'industrie canadienne est moins grande, indique le professeur Brian E. Rowe de l'Université d'État de l'Ohio. Cet observateur du monde agroalimentaire était présent à Montréal lors de la rencontre sur l'innovation alimentaire DUX au mois de février. Il y a fait toute une présentation sur ce sujet devant une partie de l'audience qui était tout de même surprise de réaliser que l'impact est réel. Brian E. Rowe parle d'un taux d'utilisateurs de 10% à 12% aux États-Unis et autour de 5% des adultes au Canada avec des données qui datent un peu. Les évaluations sur le nombre de patients qui prennent un médicament de type GLP-1 varient beaucoup. Une étude menée par Léger et dévoilée le mois dernier conclut que 8% des adultes canadiens consommeraient désormais un médicament GLP-1. Il risque d'y en avoir beaucoup plus dans les mois et les années à venir, puisque Santé Canada étudie présentement 17 demandes de médicaments génériques. Résultat, une importante partie de la clientèle réduit sa consommation à l'épicerie et au restaurant, particulièrement au début du traitement. Selon les données du professeur Rowe, la facture d'épicerie familiale fond de 8% au départ pour ensuite atteindre une réduction de 4% après 6 mois de traitement dès qu'il y a un utilisateur dans la maison. Ce serait judicieux de répondre aux besoins de ces utilisateurs, précise Brian E. Rowe en entrevue. Parmi les comportements qui changent, les collations de style calories vides perdent de l'intérêt puisque chaque bouchée compte et que les patients sont rassasiés plus rapidement. Ça vient aussi affecter la valeur de récompense des aliments, précise Alexandre Caron, professeur à la faculté de pharmacie de l'Université Laval, qui confirme que les achats des utilisateurs évoluent. Ils ont, continue-t-il, moins de fringales et moins d'intérêt pour les aliments plus gras, plus sucrés ou plus salés. Ça change la faim, mais ça change aussi l'intérêt pour certains aliments. Le scientifique insiste toutefois. La réponse est très différente d'un patient à l'autre et nulle pour certains. En moyenne, on peut évaluer une réduction de 30% de la consommation alimentaire, dit-il. Qui a sauté sur ça? Si les fabricants locaux n'ont pas encore sauté dans le train, certains produits de géants de l'alimentation affichent fièrement la mention GLP-1 Friendly sur leurs emballages. Nestlé a lancé une gamme de pizzas, sandwichs et bols qui affichent cette prétention. Cette gamme amie pour les patients GLP-1 s'appelle Vital Pursuit. Ce sont des repas riches en protéines et en fibres et ne sont toujours pas offerts au Canada. À la fin de 2025, la chaîne de repas d'inspiration mexicaine Chipotle a lancé un menu riche en protéines pour ses restaurants des États-Unis et du Canada. Certains plats ont été conçus par les utilisateurs de médicaments GLP-1 et présentés ainsi comme ce bol de poulet, riz brun, haricots noirs et légumes qui contient 46 g de protéines, 14 g de fibres et 540 calories. Les quatre restaurants, Cuba Libre, vont plus loin aux États-Unis en misant sur un menu très clairement destiné aux utilisateurs d'Ozempic et d'autres médicaments de la même famille. Quelques autres restos font la même promotion. Guillaume Mathieu, cofondateur de la firme ILO, accompagne des entreprises dans le milieu agroalimentaire d'ici. Il doute que l'industrie québécoise aille si loin dans ses prétentions à court terme. Déjà, les fabricants présents sur le marché canadien viennent de réviser la formulation et l'emballage de certains de leurs produits pour échapper à la petite loupe qui affiche désormais qu'un aliment est trop salé, gras ou sucré. Selon lui, ils ne se précipiteront pas pour développer un produit spécifique visant à rejoindre 10% du marché. Surtout que les protéines sont à la mode depuis plusieurs années et que les fibres sont la nouvelle protéine, rappelle Guillaume Mathieu. Même des chaînes de café comme Starbucks ou Second Cup font la promotion de leur café protéiné. Si je suis dans la position d'un directeur marketing et que je dois décider si je mets « riche en protéines et en fibres » versus « mettre GLP-1 friendly » sur un produit, je vais vouloir rejoindre une plus grande part de la clientèle avec les protéines et les fibres. Résume Guillaume Mathieu. Monsieur Mathieu ajoute que le fait d'afficher le nom d'un médicament sur un aliment n'est peut-être pas l'option la plus alléchante. Aux États-Unis, ça ne semble pas être un frein. Selon le professeur Brian E. Rowe, les indications sur des menus de restaurants n'ont pas été rebutantes. De plus, la plupart des gens qui ont acheté des repas de la nouvelle gamme de Nestlé ne consommaient pas de médicaments. Une inquiétante banalisation. La nutritionniste Isabelle Marquis doute aussi du potentiel d'attrait d'une mention GLP-1 au Québec. Et cette banalisation du discours qui entoure la prise de médicaments de la famille du sémaglutide l'irrite beaucoup. C'est un médicament. Qui dit médicament dit nécessairement effet multiple sur la santé de la personne qui le prend, précise cette experte en communication et marketing alimentaire. Pour moi, mettre dans la même case une opportunité d'affaires avec un problème de santé, je trouve ça choquant. Isabelle Marquis précise aussi que les gens qui utilisent ce type de médicaments ont besoin de plus que des aliments riches en fibres et en protéines et que l'industrie risque de faire des raccourcis. Chaque bouchée qu'ils avalent devient particulièrement importante, dit-elle. Les transformateurs alimentaires qui voudraient aller dans ce marché-là devraient y aller avec conscience et empathie. L'opportunité d'affaires devient intéressante et pérenne à condition qu'elle devienne bénéfique, non seulement pour ceux qui sont sur GLP-1, mais pour n'importe quelle personne qui souhaite moins manger et mieux s'alimenter. Quelques définitions. GLP-1. C'est une hormone produite naturellement par le petit intestin. Le GLP-1 sécrète de l'insuline après le repas pour maintenir une glycémie stable. L'industrie pharmaceutique a développé des versions du GLP-1 qui sont moins dégradables, précise Alexandre Caron de la faculté de pharmacie de l'Université Laval. Le premier médicament qui mimète ainsi l'action du GLP-1 est apparu il y a une vingtaine d'années pour traiter le diabète de type 2. Sémaglutide. Le sémaglutide est l'ingrédient actif d'Ozempic, comme l'acétaminophène dans le Tylenol par exemple. C'est aussi l'ingrédient de Wegovy, un autre médicament sous forme injectable approuvé au Canada. Le sémaglutide est une molécule qui reproduit l'action de cette hormone GLP-1 pour ceux qui en ont besoin. Ozempic. Ozempic est une marque, un nom commercial comme Wegovy. Ces deux médicaments sont peut-être les plus connus de la population présentement, mais il y a plusieurs autres médicaments GLP-1 avec des molécules différentes du sémaglutide comme ingrédient actif. On pense au liraglutide ou au dulaglutide. Ils sont tous dans la même famille et miment tous le GLP-1. Le tirzépatide est différent car il contient deux peptides combinés et peut être considéré comme un médicament GLP-1 de deuxième génération. C'est l'ingrédient de Mounjaro ou de Zepbound. C'était « Comment Ozempic influence votre assiette ?» Un texte de Stéphanie Bérubé, paru le 4 avril 2026 dans La Presse.
Les fausses leçons de 1812. Un texte de José Boileau, paru le 23 avril 2026 dans La Presse. Mark Carney s'est montré ferme face aux États-Unis à l'approche de la renégociation de l'accord de libre-échange nord-américain. « Nous ne recevons pas d'ordre des États-Unis », a-t-il déclaré, ajoutant qu'il ne pensait pas à eux quand il se lève le matin. Un agacement qui suit son allocution du dimanche 19 avril 2026, où il a rappelé que le Canada avait déjà fait la guerre aux États-Unis, comme un autre premier ministre l'avait déjà fait avant lui. À l'automne 2011, Stephen Harper, premier ministre du Canada depuis 2006, mais enfin à la tête d'un gouvernement majoritaire, lançait en effet une opération inattendue, souligner le 200e anniversaire de la guerre de 1812 lorsque le pays avait dû faire face à une invasion américaine.
Le communiqué présentant les festivités
pour M. Harper, cette guerre
était temps de reconnaître
les bases
ce moment
de ce qu'allait devenir
nationale.
Le Canada, c'est-à-dire un pays indépendant et libre, uni sous la couronne et respectueux de sa diversité linguistique et ethnique. Je n'ai plus souvenir de l'accueil que le Canada anglais avait réservé au bien fondé de cette annonce, si ce n'est de s'interroger sur l'argent dépensé pour les nombreuses festivités alors que des compressions s'appliquaient à certains secteurs, comme les archives nationales. Mais au Québec, bien des sourcils se sont levés. La guerre de 1812? Connais pas. Laura Secor, l'un des personnages marquants de l'événement, était ici strictement associé à la chaîne vendant de délicieux chocolats. L'indifférence des Québécois était grandement prévisible, comme l'a alors noté La Presse. Il faut dire qu'il y avait de quoi s'étonner quand on lit le communiqué de 2011. Si la guerre de 1812 s'était terminée autrement, l'identité francophone du Québec n'existerait pas et l'histoire des peuples autochtones aurait été profondément transformée. Depuis 1812, autochtones et francophones ont pourtant mené bien des luttes ici même pour que leur existence soit reconnue et respectée. Il reste que l'affection de M. Harper pour cet événement historique était alors apparue à plusieurs comme une lubie d'un conservateur au sens classique du terme, accroché au symbole militaire mais aussi monarchique d'un autre temps. Pour rappel, toujours en 2011, il avait fait remplacer deux tableaux du grand peintre québécois Alfred Pellan par des portraits de la reine Élisabeth à l'entrée du ministère des Affaires étrangères à Ottawa et ordonné aux ambassades du Canada d'afficher dorénavant un portrait de la souveraine. 4 ans plus tard, Justin Trudeau arrivait au pouvoir avec un gouvernement majoritaire. Les deux Pellans ont aussitôt retrouvé le foyer des Affaires étrangères et de 1812, il ne fut plus question. D'où ma surprise d'entendre le premier ministre Mark Carney en raviver le souvenir dans le cadre de son allocution aux Canadiens prononcée le dimanche 19 avril 2026 sur la très américaine chaîne YouTube. Il s'est toutefois mieux tiré d'affaire que Stephen Harper, à qui des historiens avaient reproché sa relecture de l'épisode. Cette fois, l'attention médiatique s'est limitée au symbole de la résistance aux Américains et à la figurine que le premier ministre avait à la main. Elle représente le général Isaac Brock, militaire britannique efficace et rassembleur, qui a remporté des victoires sur les Américains et qui est mort sur un champ de bataille du Haut-Canada 3 mois après le début de la guerre. M. Carney a expliqué que, pour lui, cette figurine était une source quotidienne d'inspiration, la preuve qu'unis, les Canadiens peuvent faire front, comme l'avaient alors fait les troupes britanniques auxquelles s'étaient joints des autochtones et des francophones. Mieux encore, avant même que le Canada n'existe sur papier, notre pays prenait déjà forme dans l'imaginaire de Brock, a précisé le premier ministre. Il a pu ainsi vaincre son puissant voisin. Sauf qu'il manque des morceaux à l'histoire de M. Carney. Ou plutôt, il la romance, comme il l'a fait auparavant lors de son discours des Plaines d'Abraham, champ de bataille devenu, dans ses mots, le point de départ d'un partenariat entre francophones et britanniques. La guerre anglo-américaine de 1812, qui s'est conclue en décembre 1814 par le traité de Gand, porte en fait très bien son nom. C'est l'Empire britannique qui a triomphé du voisin américain, pas le petit Canada. Et si des Canadiens, comme on appelait alors les Canadiens français, se sont joints volontairement aux loyalistes, c'est par intérêt pour la chose militaire. C'est le cas de Charles-Michel de Salaberry, cité par M. Carney, non par souci identitaire collectif. Quant aux Autochtones, menés par le chef Tecumseh, aussi salué par le premier ministre, un article du magazine L'Action nationale, paru à l'époque des commémorations de M. Harper, a souligné qu'ils n'avaient pas participé au combat que pour défaire un ennemi commun. Jamais par adhésion à une identité, ni même à une souveraineté britannique ou canadienne, puisque leur but était un territoire indien indépendant, ou à la rigueur sous protectorat britannique. Ils ont d'ailleurs été les grands perdants du conflit, chassés ensuite de leur terre des deux côtés de la frontière. Mark Carney, en fait, prouve à nouveau sa facilité à puiser dans les référents conservateurs alors qu'il est un chef libéral, les libéraux rattachant plutôt la naissance du nationalisme canadien à la Première Guerre mondiale. L'accent que son gouvernement met sur les dépenses militaires en fait aussi foi. Mais notre imaginaire collectif n'est pas habité par la guerre, et nous avons d'autres armes pour irriter notre voisin du Sud. Boycotter son alcool, ne pas aller chez lui en voyage. Mieux encore, avoir un chef de gouvernement qui livre ses messages à la patrie ailleurs que sur YouTube. C'était « Les fausses leçons de 1812 », un texte de José Boileau, paru le 23 avril 2026 dans La Presse.